Mathilde, dans votre billet culturel, vous évoquez quelque chose dont on parle souvent, mais qui se fait attendre, l'Europe de la culture.
Oui, les États-Unis ne se sont pas racontés dans un tableau Excel, ni à travers les débats sur le déficit. Le déficit narratif, en revanche, est bien un mal dont souffre l'Europe. Alors que les élections européennes débutent aujourd'hui aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, depuis Cannes, vient de retentir l'appel au vote de 500 cinéastes de toute l'Europe. Les Français Jacques Audiard et Céline Sciamma, le Britannique Stephen Frears, l'Allemand Wim Wenders, les Belges Jean-Luc et Pierre Dardenne, le Portugais Miguel Gomez, le Polonais Pavel Pawlikowski, l'Italienne Valeria Golino, entre autres, autant de noms qui évoquent des mises en scène si singulières et en même temps une vague identité commune qui les traverse. Les films de ces cinéastes sont d'ailleurs des projets européens stricto sensu, car bien souvent issus d'une coproduction entre différents pays de l'UE. L'Europe, nous nous efforçons de la décrire avec délicatesse, des images et un langage plus accessible à tous les peuples qui la composent, écrivent les 500 cinéastes avec un « nous » qui tente de faire exister en filigrane cette fameuse Europe de la culture. Et ce « nous » reconnaît simultanément le manque de récits communautaires inspirants et désirables. L'appel des 500 cinéastes débute sur cette Europe sans âme et sans émotion qui utilise une langue que peu d'entre nous comprennent. Et de fait, dans « communauté », européenne, on n'entend plus communauté, mais technocratie. Quelle est cette communauté? Quel est le récit commun que nous partageons quand les piliers de l'esprit européen sont menacés au sein même de l'Union? En Pologne, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, à Chypre, en Italie, quid de l'ouverture des frontières, de la libre circulation, de l'échange, de la fraternité, de la solidarité, de l'hospitalité? Et quelle liberté des arts, des opinions, du journalisme aujourd'hui à l'échelle européenne? Le ton du texte des 500 cinéastes est particulièrement grave. Une Europe libre et démocratique, c'est aussi une Europe de la libre pensée et de la liberté d'expression, clame-t-il. N'a-t-on pas vu partout les signaux multiples de remise en question de ces valeurs qui unissent l'Europe de la culture? Une artiste était récemment arrêtée en Pologne pour une vierge à l'auréole arc-en-ciel qui offensait le sentiment religieux. Et de manière diffuse, pas plus tard que l'année dernière, on censurait des nus du peintre Egon Schiele à Londres, à Hambourg, à Cologne, pour ne pas choquer. Les œuvres n'ont pas de morale à respecter, elles sont libres de révéler, de choquer, de blasphémer, ne serait-ce pas là une part de notre identité européenne? Pourquoi ne pas se distinguer aussi des autres continents par la liberté publique et artistique, l'éthique de la gouvernance ou encore un cahier des charges contre la concentration capitalistique des grands groupes culturels, par exemple? En 1934, Stephen Zweig commence la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen, qui raconte la Vienne d'avant 1914. Il écrit « Ici, chacun était promu à ce cosmopolitisme qui répudie tout nationalisme étroit. Chacun était élevé à la dignité de citoyen du monde. Et l'on n'était pas un vrai Viennois sans l'amour de la culture. » Si le testament de Zweig nous parle d'un monde disparu, il a en lui des pistes pour reprendre ce récit européen de la culture. Il dessine une troisième voie entre une Europe anecdotique et cosmétique de la culture, la nôtre aujourd'hui, et une Europe qui transforme la culture en ciment réactionnaire et nationaliste, la nôtre peut-être demain. Quand on pense à l'Eurovision ou l'Eurodance comme Europe de la culture, on part de loin. Mais une troisième voie donc reste possible, celle d'une reconquête narrative européenne et de la culture comme pivot.
Merci beaucoup Mathilde Serrel.